Bulles et reportages, principe actif.
Bulles et reportages.
Oh, je te reconnais, c'est pas.
Mais si, c'est principe actif qui débarque.
Bonjour, nous sommes donc au Salon des Seniors qui se tient à l'hôtel de département ce matin de 9h à 17h et nous avons avec nous Madame Jolivet, je vais lui demander de se présenter et puis après nous allons un petit peu bavarder. Bonjour Madame.
Bonjour, donc Isabelle Jolivet Pérez, directrice Solidarité Autonomie au département de l'Eure.
D'accord, quelle est votre fonction? On va parler un petit peu de ça, si vous voulez.
Alors, je suis la directrice, effectivement, de la direction qui délivre l'ensemble des prestations pour les personnes âgées, personnes en situation de handicap. Nous finançons aussi les EHPAD et les structures pour personnes en situation de handicap. Nous avons aussi différents projets aussi en direction des seniors, dont la conférence des financeurs, qui nous permet aujourd'hui d'accueillir ce salon des seniors au sein du département.
Je crois que c'est la deuxième édition, il me semble, j'ai entendu dire. Il y a eu une parenthèse blanche avec le Covid, je suppose. Est-ce que les besoins ont augmenté ou c'est à peu près la même chose qu'il y a deux ans?
On peut se rendre compte qu'effectivement, on a de plus en plus de souhaits des Eurois de rester à domicile. Et donc, effectivement, il faut qu'on travaille sur les attentes des Eurois en termes d'aménagement du domicile, qui leur permettent effectivement de rester chez eux le plus longtemps possible.
Ah oui, c'est leur souhait, hein, c'est de rester. Hein.
C'est ça, 85% des Eurois souhaitent rester à domicile.
D'accord.
Voilà.
Comment se situe le département de l'Eure par rapport à la Normandie et au niveau national sur, je ne sais pas si c'est la prise en charge, d'abord le nombre de seniors, la prise en charge, et puis peut-être le handicap, puisqu'on va parler aussi des aidants.
Sur ce sujet, on est un département jeune par rapport à l'ensemble des départements normands, mais par contre on a une particularité, c'est que même si on est jeune aujourd'hui, on va tous vieillir en même temps. Donc il va falloir qu'on prévoie l'avenir, et donc on va avoir une augmentation de la population des plus de 60 ans dans les années à venir jusqu'en 2030 voire 2050 de plus 22%. Donc il faut qu'on s'y prépare, il ne faut pas hésiter effectivement à appeler le département de l'Eure pour avoir des renseignements.
Oui, je crois qu'en fait, c'est la méconnaissance, je pense, que des circuits ou des organismes vers lesquels il faut se tourner pour essayer de répondre à une problématique. Merci.
Alors, je suis au stand de la réflexologie.
C'est ça.
Et vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît?
Ça s'apparente à un massage, mais on va venir travailler des points de pression au même titre que l'acupuncture le fait, sauf que nous n'avons pas d'aiguille. Et on vient travailler ces points de pression en fait avec nos doigts, de manière à stimuler des zones.
Est-ce que je regarde en même temps votre affiche là, ça peut avoir un effet sur l'arthrose, parce que les personnes âgées, elles en souffrent quand même beaucoup.
Oui, tout à fait. C'était le but de l'atelier d'aujourd'hui, de proposer aux gens d'apprendre à travailler sur leurs mains la problématique de l'arthrose.
Ah oui, c'est intéressant ça.
Oui.
Ben, je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie de l'intérêt que vous portez à la réflexologie.
Vous venez de vous promener parmi les stands là?
Oui, tout à fait. Je suis venue au Salon des Seniors parce que je suis quand même concernée, voilà.
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ah, je trouve ça très bien et tous les intervenants sont très sympathiques et j'ai eu beaucoup d'informations, notamment sur la santé. Et puis j'ai également fait les tests du code de la route. Voilà.
En quoi ça consiste ces tests?
Ah ben on nous interroge sur les signalisations de la route et voilà, ça nous permet de faire une évaluation sur nos connaissances et pour certains on s'aperçoit que c'est utile et qu'il faudrait peut-être aller plus loin même.
Bon ben je vais continuer ma promenade avec mon micro.
Merci beaucoup, bonne promenade.
Nous faisons de la lutte contre l'illettrisme dans les entreprises, et notamment les petites entreprises. Voilà. Nous faisons aussi de la lutte contre l'électronisme, c'est-à-dire pour que les personnes puissent bien utiliser leur tablette ou leur PC. Parce que téléphone, par exemple, les jeunes, ils savent bien, mais ils ne savent pas utiliser un PC. Donc, il y a tout ce travail-là. Alors, donc, on s'adresse à toute personne qui est en difficulté. Le deuxième axe, c'est tout ce qui concerne l'emploi et la création d'entreprise, mais je n'insisterai pas sur ce point-là. Le troisième, c'est la mobilité.
Voilà, la mobilité. Je suppose que si vous êtes ici, c'est vraiment à destination un peu des seniors, voilà, principalement aujourd'hui, mais il n'y a pas que, mais d'abord pour les seniors.
Voilà. Alors, au départ, on fait de la révision du code de la route pour les seniors.
Ah, génial ça!
Mais je crois que c'est plus que la révision, c'est de l'apprentissage. Comment utiliser un giratoire?
Oui, exactement. Ah,
alors là quand on fait une séance là, on a des fois une demi-heure de discussion pour bien comprendre comment on met son rétro, comment on se positionne dans le giratoire, etc. Ça, c'est un point fort. Donc, aussi au niveau des panneaux, parce que depuis moi qui ai eu mon permis de conduire en 1967, il y a 800 nouveaux panneaux.
800 en 50 ans?
Oui.
Eh ben dites-moi, moi c'est pareil, j'ai eu mon permis en 71, donc depuis il y a eu vraiment profusion. Hein.
Ah oui, il y a plein de nouveaux là. Aussi pour aussi au niveau des personnes quand ils ont un accident pour rédiger leur constat amiable. Et puis, alors aussi, les seniors par rapport à, comme piétons. Alors, donc, on va avoir là, dans 5 minutes, une heure de conférence spécialement sur Agiroute. C'est ce qu'on appelle Agiroute pour nous. Alors, en plus que les seniors, on a l'apprentissage du code de la route aux personnes qui ne peuvent pas suivre en auto-école.
Et alors, qu'estimez-vous, puisque on parle de la conduite là, et vraiment ça pose problème par rapport non seulement aux facultés hein, de la personne, mais aussi de la santé. Est-ce que vous imaginez ou vous pensez qu'il faudrait, un contrôle de visite, une visite médicale, repasser le permis, etc., etc.
Alors, sur ce point-là, en fait, dans le cadre de notre opération révision de code de la route de senior, on en parle petit peu.
Ouais.
Mais ça ne peut être que suggéré. Parce que le véhicule, c'est un bien tellement à cœur des personnes qu'il faut. Et c'est, à mon avis, déjà plus l'aspect des familles.
Ouais.
La première chose, c'est les familles, de convaincre d'arrêter de conduire. Parce que là, et nous, on suggère, on dit, voilà, à un certain moment, on n'a plus la vue, on n'a plus l'audition. Et ça, on en parle dans nos stages, dans nos trois...
Oui, mais vous avez des pays quand même, certains pays, je ne sais plus lesquels, mais je crois qu'il y a l'Espagne peut-être aussi, où ils ont mis une date limite, on va appeler ça comme ça, pour la conduite, et puis avec des visites médicales, repasser des choses. Je crois que, il me semble, hein, que l'Espagne... est-ce qu'on est capable, nous, Français, d'accepter ça?
Je pense que la visite médicale, ça doit être possible.
J'ai entendu parler cette semaine, on va dire, une personne qui était avec des problèmes de santé, si je peux me permettre, et qui a été voir son médecin, et suite au pourcentage d'évolution de sa maladie, le médecin lui a interdit de conduire. Et ça, c'est tout nouveau, c'est de cette semaine ou de la semaine dernière.
Ah oui, donc en fait, il y a déjà une prise de conscience, d'abord du corps médical, et avant toute chose, bien sûr, mais parce qu'il faut que la personne entende de l'extérieur et pas de la famille. Hein.
C'est ça, parce que depuis une année que je m'occupe, si je peux me permettre, de car 276, sur le département de la Seine-Maritime, on transporte à peu près 70 à 75 personnes, on va dire. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas laisser leur voiture, en fin de compte. Parce que j'ai rencontré des personnes qui, sur le moment, disent oui, mais au moment de remplir les papiers, mais ils ne veulent pas du tout laisser leur voiture.
En plus de ça, comme disait monsieur tout à l'heure, en fait, c'est enlever la liberté de la personne âgée, d'accord? Qu'il soit dans un village ou pas, Et oui, c'est la liberté qui n'est plus la même, quoi. Hein, c'est une autre organisation.
Ça change complètement, en fin de compte. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça rend énormément de services aux personnes d'un certain âge, bien entendu, mais c'est surtout au niveau des enfants, parce que les enfants sont présents, c'est sûr, mais les enfants travaillent, habitent pas toujours au pied de chez papa et maman, si on peut dire, et pour certains rendez-vous, ben, c'est des rendez-vous d'heures de travail de la semaine, en fin de compte, donc c'est très très compliqué. Donc pour les personnes qui font appel à nos services, c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas d'adhésion à l'association ni quoi que ce soit.
Merci monsieur, merci beaucoup.
Donc moi c'est Ramataba, je coordonne la coopération qui s'appelle Monalisa. Monalisa c'est la mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et l'idée c'est d'un au niveau des seniors de leur dire de rester actifs. Il faut garder ce lien, ce côté social. Souvent après arriver à la retraite, on a cette rupture effectivement du fait de ne plus avoir d'environnement professionnel. Mais du coup, il faut faire des choses. Il faut aller faire des activités, des ateliers, il faut faire du bénévolat comme vous. Voilà, c'est important de garder toujours et préserver ce côté social parce que c'est bon pour la santé. Et de l'autre côté, on a les professionnels du coup qui eux agissent, qui proposent. Et moi, mon but, c'est de faire connaître ces professionnels qui se connaissent entre eux pour savoir qui fait quoi sur le territoire et pouvoir mieux orienter les personnes. Et puis l'idée, c'est que les travailleurs sociaux notamment, eux peuvent nous aider à repérer les personnes isolées. Donc une fois qu'on les a repérées, qu'est-ce qu'on leur propose pour qu'ils puissent sortir du domicile et faire des activités ?
Et donc je vais essayer d'aller voir les activités physiques adaptées. C'est un stand où en effet l'objectif c'est toujours le bien-être et voilà, et je vais pouvoir discuter. Bonjour.
Alors, donc Margot Parmentier, donc coordinatrice au sein de l'ACEPT Normandie. Donc l'ACEPT Normandie, c'est l'association santé, éducation et de prévention sur les territoires de Normandie. Donc nous sommes une association interrégime, ça veut dire qu'on est financé par les caisses de retraite et également donc la conférence des financeurs. Notre mission est de faire de la prévention à la santé à destination des seniors. On propose des conférences, des ateliers donc, sur les thématiques du bien vieillir, la mémoire, la nutrition, l'activité physique adaptée, enfin vraiment c'est très large, l'habitat, enfin vraiment sur toutes les thématiques du bien vieillir. Et donc toutes nos actions sont entièrement gratuites pour les partenaires locaux et également pour nos participants. Les personnes sont intéressées, comment ça fonctionne? Donc souvent c'est des demandes des partenaires locaux, donc ça va être les CCS, les communes, les associations également, des aînés, enfin voilà toutes ces choses-là. Donc ils nous contactent et on met à disposition les actions clés en main, voilà l'action qu'ils souhaitent, entièrement gratuite. Et voilà, nous on s'occupe également de la communication. Les caisses de retraite communiquent, envoient un courrier à leurs adhérents et ils se rendent donc sur nos actions. Voilà. L'idée c'est derrière vraiment que les gens soient dans un parcours de prévention et derrière vraiment de créer du lien social, puisque des fois pour certaines personnes se retrouver à la retraite c'est pas toujours évident. Se retrouver, il y a quand même la solitude, faut pas oublier. Et derrière ça c'est vraiment de créer du lien dans les groupes. On a un catalogue avec des actions. D'accord. Après, on n'est pas contre le financement des actions innovantes. Sur l'activité physique adaptée, notre liste est vraiment large. Voilà. Aujourd'hui, on propose de la savate défense. On a proposé, par exemple, il y a 2 jours sur Mont-Saint-Aignan, du soft rugby. Enfin, voilà. On est vraiment... S'il y a un partenaire local qui peut animer, eh ben, il n'y a aucun souci. On est preneur.
D'accord. Et alors, les financements viennent donc de par votre Paracept Normandie et vous êtes financé par les caisses de retraite
La conférence des financeurs également. Voilà.
Et la conférence des financeurs, c'est...
Alors, pour faire court, vous savez, il y a la journée de solidarité.
Oui.
La journée de la Pentecôte.
Voilà. Oui,
Et donc, cette journée, c'est solidarité pour les aînés et donc le gouvernement a choisi en fait qu'il y ait une part de ce budget là pour les actions collectives. Voilà.
D'accord. Ah, ça vous le dire parce que personne ne sait. Enfin, moi, je sais que j'ai participé à la mise en place quand même parce que 74. Hein. Et en fait, c'est les salariés donnent, donne une journée, 7 heures, d'accord ? Et dans ce pot commun, il y a vos actions, enfin, une petite partie qui vous revient.
Voilà, voilà, qui est pour les actions collectives. Voilà, ils financent d'autres associations. Enfin, voilà, mais,
bien sûr.
Mais voilà, oui.
D'accord, je reviendrai peut-être après vers vous, mais je vous remercie beaucoup, madame. Merci beaucoup, à bientôt.
Bonjour madame, vous venez de faire un tour du salon. Quelles sont vos impressions ?
Ben, les stands où je me suis adressée ont été. Ça m'a donné des renseignements utiles. Je suis allée voir le stand de Comment bouger. Donc il y a un monsieur qui m'a vraiment bien renseignée. Et puis là, je viens d'aller voir pour l'habitat. Ben, on m'a donné des idées aussi pour adapter un petit peu une maison normale. À devenir une maison adaptée au handicap.
Donc vous repartez satisfaite ?
Oui, oui, relativement satisfaite. Je suis arrivée un petit peu tard, donc j'ai pas eu le temps de tout faire, mais ce que j'ai vu, c'était intéressant.
Bon, bah, tant mieux pour vous.
Voilà, bonne continuation.
J'ai fait pipi ! Viens ici tout de suite !
Cette fois-ci, c'est moi qui bats. Non, c'est moi sa femme.
Bonjour.
Bonjour, je suis Séverine, l'aide à domicile.
Ah, d'accord. Enchanté, on se connaît pas, je suis Thomas, leur fils. Ah. Bon, ça va ? Tout se passe bien ?
Eh ben, justement, je ne voudrais pas vous alarmer, mais votre mère a vraiment besoin des réponses. Elle est vraiment à bout, là.
Non. Vous dites ça parce que vous la connaissez pas. Ma mère est une femme très forte et elle en a vu d'autres.
Et oui, ma noge, là, justement, ça lui fait trop. Votre mère n'est plus toute jeune et votre papa n'arrange pas trop les gens.
Mais vous dites ça parce que vous ne les connaissez pas. Mais eux, si, ils se connaissent par cœur même et elle sait y faire avec lui mieux que personne.
Non, mais là, vraiment, elle a besoin de quelqu'un justement.
Oui, et c'est pour ça que vous êtes là.
Non, vu comme ça se passe, il faut vraiment réfléchir à des nouvelles solutions. Sinon, votre mère va y passer.
Au secours. Au secours.
On sait par exemple qu'en 2030, il y aura un actif sur quatre qui sera aidant. Alors ça n'englobe pas en plus toute la population des aidants, parce qu'il y a aussi de nombreux aidants qui ne sont pas actifs, mais ça montre aussi le phénomène dans son ampleur. C'est une personne qui est non professionnelle hein, et qui apporte de l'aide à un proche qui rencontre des difficultés. Je pense que de toute façon, la définition, vous la connaissez tous individuellement. Mais il faut bien prendre conscience que quand on parle de ces 11 millions d'aidants, eh bien, on intègre aussi les parents qui s'occupent de leurs enfants en situation de handicap, donc qui aussi posent des questions. Mais moi, il y a deux profils plus spécifiques qui m'intéressent plus là aujourd'hui. C'est à la fois la question de l'aidant qui est le conjoint âgé de la personne en perte d'autonomie. Et puis l'enfant, c'est un peu Lila, la dame là tout à l'heure, ma femme. Et puis le jeune homme là qui part rapidement dans son dynamisme à faire autre chose de sa vie. Alors c'est juste rapidement sur la question de l'aidant hein, du conjoint âgé. La perte d'autonomie, elle peut être brutale comme elle peut être progressive. Et c'est ça, en fait, qui va aussi impacter la mise en place de l'aide et de l'accompagnement. Mais surtout, en fait, souvent, on va sous-estimer l'aide qu'on va pouvoir avoir, dont on va avoir besoin.
Moi, je vous ai écouté pendant la conférence et j'aimerais avoir un peu votre ressenti sur tout ce qui s'était dit. Bon, en quelques mots, hein, parce que je crois que vous êtes psychologue, hein, c'est ça.
Je suis psychologue, oui. Déjà, la scénette au départ, la petite pièce de théâtre qu'on a eue au départ, je trouve, était très synthétique. Elle disait plein de choses de ce qu'on peut nous voir quand on rencontre des aidants. Puis après, je trouve que les témoignages des deux aidants ont été très forts. Et comme je disais à Michel Jérôme, je dis tout le temps que les aidants sont des experts. Et on l'a bien vu. Je trouve que ce qu'ils nous disent là, ils savent plein de choses. Donc être aidant, ça se fait petit à petit. Mais par contre, effectivement, on voit bien encore qu'il y a beaucoup d'aidants qui arrivent trop tardivement sur les structures. Alors, soit par une méconnaissance des structures, et aussi par des fois une inquiétude. Une inquiétude sur de laisser son proche à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Enfin, voilà. Mm-hmm. Donc, mais j'ai trouvé quand même, enfin, je ne sais pas, mais ce que vous pouvez en penser, mais
Voilà, et puis aussi, même les intervenants dans la salle, j'ai trouvé que c'était assez pertinent et assez touchant.
Ouais, c'était, voilà. Il y avait beaucoup d'émotions et moi aussi, j'ai passé un bon moment ce matin. Et j'espère que ça a pu aider les personnes qui étaient dans la salle.
Donc, vous, votre ressenti après cette conférence?
Alors, mon ressenti après la conférence, vraiment toutes les personnes qui étaient actives dans cette conférence ont été extraordinaires, y compris deux personnes qui apportaient des témoignages sur l'estrade et qui se sont mis à nu. Je trouve qu'il y a beaucoup de mérite à expliquer des problèmes qui sont aussi dégradants des fois, qui pourraient paraître tellement dégradants, arriver à dire les choses, c'est tout à leur honneur. Et c'est le problème de beaucoup. C'était quand même très orienté sur Alzheimer et les maladies qui touchent le cerveau. Ça, c'est peut-être le petit dommage de cette conférence. Moi, je suis dans une autre situation. J'ai un mari qui, effectivement, le cerveau est un peu touché aussi, qui le rend agressif, il ne veut pas d'aide. Mais il y a aussi des problèmes physiques sur le corps, une cryptochromie, qui est une maladie peu connue, mais qui déforme complètement le dos. Qui fait qu'il marche mal. Là, il vient de tomber, en plus, il y a un col du fémur, il est hospitalisé. Et il n'y a pas de solution. Le temps qu'il était à la maison, on me dit, on va vous apporter de l'aide. On a un médecin généraliste qui nous a mis en lien pour qu'on nous apporte de l'aide. Mon mari refuse toute aide à la maison. Il ne veut personne d'autre que moi. Mais quand il refuse de l'aide pour lui, ça veut dire qu'il refuse de l'aide pour moi et que tout repose sur moi. C'est très lourd à gérer. Faut que je me trouve sans aide extérieure, faut que j'arrive à me trouver toute seule mes bouffées d'oxygène en fait. Alors là, il y a une association qui s'appelle Bulle d'air et moi j'appelle ça mes bouffées d'oxygène. Et ben j'ai mes bouffées d'oxygène à la maison parce que je me suis trouvé des dérivatifs qui fait que je m'occupe aussi de gens qui sont plutôt de ma génération pour autre chose. Mais ça crée un lien par Internet, hein, mais ça crée un lien. Alors, ce n'est pas des sites de rencontre, je précise, hein, ne nous méprenons pas. Je m'occupe de chanteurs et je m'occupe des gens qui aiment ces chanteurs des années 60. J'organise des concerts, des choses comme ça. Et toute cette période d'Alzheimer, j'étais totalement consciente de ce que notre groupe de fan club a pu apporter à ces gens qui vivaient pour la plupart dans la solitude, enfermés chez eux, on n'avait plus le droit de sortir. Enfin, il y a eu des périodes que je n'ai pas besoin de vous décrire. Mais quand on vit seul, pour un de mes chanteurs, j'ai plus de 3000 fans. Je sens très bien ce qu'on s'apportait mutuellement, même simplement en se disant bah, « Tiens, dis-moi la chanson que tu préfères, je vais te la publier. » Il y en a qui sont plus ou moins à l'aise sur Internet pour faire ça. Et à 3000, on a créé une forme de solidarité entre nous. Et c'est faire vivre ça qui me fait vivre et qui me fait accepter ma condition d'aidante et que j'apporte ce que je peux à mon mari.
Oh.
Alors, ma question est la suivante. Depuis combien de temps existez-vous et est-ce que vous avez vu une évolution et une amélioration auprès des seniors?
Alors, moi, je suis là depuis 4 ans, donc je pense que je n'ai pas le recul nécessaire pour voir l'évolution. Hein. J'ai subi le Covid. Depuis quand on existe?
Directement, parce qu'effectivement, c'est en ce moment entre 10h et 11h. Hein, ça
fait... Pardon, une autre dame dit 2008, voilà. Ça fait quand même 14 ans, hein?
Et on a été créé par la MSA, la Mutualité Sociale Agricole.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, nous sommes devenus interrégime.
D'accord.
Et au niveau de l'évolution des seniors, oui, ce qu'on voit concrètement aujourd'hui, c'est qu'il y a une évolution, c'est que les gens demandent des choses ludiques. Voilà, de la participation.
Ah, exactement.
Des choses, ils n'ont pas envie d'être sur une chaise et à écouter passivement. Voilà, ils ont
à faire du macramé et du tricotage.
Non, ils ont envie de participer. Et c'est ce que l'on voit, c'est que là, avec ma collègue, là, sur l'année 2023, va falloir qu'on innove. Parce que pour continuer à mobiliser les seniors, parce que le but de la prévention, c'est de mobiliser les gens le plus tôt possible, hein, dès le jour où ils sont à la retraite, c'est qu'ils soient mobilisés dans notre parcours de prévention, justement.
Et est-ce que vous pensez, en 14 ans, que l'âge de mobilisation des seniors a baissé ou est-ce qu'il y a eu une évolution dans ce sens-là ou pas?
Alors, moi, je suis pas là depuis 14 ans non plus. Je suis dans l'association, ça fait 3 ans que je suis là. J'ai travaillé avec d'autres seniors sur d'autres...
Ouais.
Je pense que les seniors sont plus sensibilisés aujourd'hui à la prévention.
Ils ont accès à l'information.
Et ils ont plus accès à l'information. L'information est plus facile à avoir pour eux aussi. Du coup, je pense qu'en termes de mobilisation sur des actions de prévention en tant que telle, je ne suis pas sûre qu'il y ait une augmentation ou une diminution de la mobilisation. C'est les seniors qui recherchent ça. Après, je pense qu'il y a une augmentation de la recherche d'information par les seniors. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils viennent sur les actions collectives.
Oui, en fait, on ne peut pas dire que les seniors, en 10 ans par exemple, ont fait un peu plus de prévention qu'avant. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un bon salon, que ça marche bien. Ok, au revoir. Merci. Alors, il y a deux jeunes gens qui viennent de nous aborder. Ça s'appelle le service civique Solidarité Senior. Je donne la parole à la jeune fille et après au jeune homme.
Alors, on est en service civique chez Unicité contre l'isolement des personnes âgées. Bah, on se déplace chez les personnes âgées ou en EHPAD et on vient les voir pendant une ou deux heures pour discuter avec eux, pour leur faire passer un peu de temps. Et ensuite, on fait ça toutes les semaines, le même jour, pendant 6 mois. Enfin là, du coup, pendant 5 mois et demi. Et ensuite, voilà. Après, notre mission, elle se termine.
On parle avec les personnes âgées, on discute, quoi. On fait de la marche, on fait des activités avec eux, etc. etc. Un jour, je peux devenir une personne âgée aussi et on peut venir m'aider aussi. Pourquoi pas aider les autres?
Une pochette, oui. De fruits, par exemple.
Alors, nous sommes sur le salon, toujours sur le salon des seniors, bien sûr, et le rendez-vous de la vitalité, et c'est le salon Silver Fourchette. Donc, madame nous propose des petites choses. Merci beaucoup. Et elle va nous dire un petit peu en quoi consiste votre stand, votre association peut-être, voilà.
Silver Fourchette est une association pour la nutrition et une meilleure alimentation des seniors à partir de 60 ans. On organise deux types d'ateliers. On a soit des ateliers pour les aidants qui sont eux ouverts pour toute personne qui accompagne une personne de plus de 60 ans qui lui prépare ses repas. Comment j'adapte mes repas pour parer un problème de déglutition, pour un problème de dénutrition par exemple, ou tout simplement garder de la gourmandise et de l'appétit pour nos seniors, ce qui est primordial. Notamment avec le mange-main, dont on parle assez peu et qui est vraiment un super outil pour retrouver de l'appétit.
Le mange-main.
Là, vous faites du mange-main, c'est-à-dire que vous prenez sans couvert. C'est simplement ça. Et cette façon de devoir prendre sa fourchette est parfois compliquée quand on perd la facilité avec la pince. Voilà, l'appréhension est un peu en baisse. Et donc, le mange-main permet de parer à la dénutrition. Et on a d'autres ateliers, moins santé peut-être, mais tout aussi convivial, autour de visites de ferme, balades gourmandes, de rencontres avec des producteurs, ateliers de cuisine. On a différentes recettes, vous voyez, comme des salades de lentilles, des mousses de chèvre betterave, tous des produits de saison, de qualité. On essaye de faire du bio, du zéro déchet, et puis redonner aux seniors, ou continuer à percepter les qualités de la cuisine et ses valeurs conviviales. Voilà.
Cette notion de manger main, oui. Je crois avoir vu ça dans les EHPAD, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très âgés et qui, comme vous disiez, ne peuvent plus prendre la fourchette. Mais le plaisir de manger eux-mêmes, quoi.
Exactement, de ne pas avoir quelqu'un qui vous assiste pour manger. Ça nous paraît assez logique quand on est encore en autonomie. On n'aimerait pas qu'on nous donne la béquille. Bon, en fait, avec le manger-main, on les laisse en autonomie. Et il y a quelque chose de très sensoriel aussi. Je touche l'aliment que je vais manger, juste avec un blini, avec une brochette, avec une texture qui permet cette prise de nourriture par les mains, vous permet de donner goût avec du plaisir, avec des couleurs différentes, avec des textures aussi très différentes. On a un kit qui s'appelle le kit les mains dans le plat, destiné aux EHPAD et qui permet de proposer aux chefs d'EHPAD des recettes clés en main, des animations autour du manger main, des affiches pour aussi dire aux seniors non, ce n'est pas dégradant de manger avec des mains, au contraire, c'est plutôt rigolo. Et les jeunes, on fait beaucoup d'apéros dînatoires avec les mains, il y a quelque chose de très normal. La street food, elle arrive dans les EHPAD et elle permet de garder de l'appétit.
La street food, génial ça.
Voilà. La street food des seniors.
La street food des seniors. Bientôt, on va avoir des food trucks pour les seniors, etc.
Pourquoi pas? Bon, le but n'est pas de segmenter chaque public, au contraire, mais c'est d'adapter un problème qui est là de dénutrition et de perte d'appétit avec quelque chose de très ludique et d'autonomisant, de pouvoir être en autonomie sur son heure du repas, c'est quand même plus sympathique.
Comment analysez-vous justement cette notion de dénutrition ou de perte d'appétit? Est-ce qu'on connaît un petit peu les causes?
Il y a quelque chose quand même qui est lié au corps, où effectivement le corps a moins envie de s'alimenter pour des raisons nutritionnelles, de mouvement aussi. Hein. Plus on va rester en mouvement longtemps, plus notre corps va nous envoyer des signaux disant « il faut manger, j'ai faim ». Et puis la nutrition, c'est aussi pouvoir enrichir son plat. Par exemple, je vais manger peut-être en plus petite quantité, mais je vais apporter les bonnes huiles ou les bonnes graisses dans mes boules énergétiques par exemple et qui vont me redonner de l'énergie pour un temps fort. Et je pense que cette baisse d'appétit, elle est aussi liée à la nourriture qu'on sert parfois dans les EHPAD. Elle n'est pas appétissante et on les comprend. Ce serait super de pouvoir rester à la maison le plus longtemps possible. C'est pas toujours possible, mais il y a des choses qui sont tout à fait réalisables pour les seniors en EHPAD. Voilà, c'est ce qu'on propose avec le programme Les Mains dans le Plat.
Et vous avez un accueil favorable au niveau des EHPAD pour proposer ce genre de pratique?
Tout à fait. En fait, sur la base du volontariat, nous, on n'impose rien. On se rapproche de l'ARS qui nous permet de mettre en place financièrement ces projets. Et ensuite, les personnels encadrants des EHPAD sont justement demandeurs d'adapter leur menu et de proposer, voir en tant que chef de cuisine, voir revenir tous ces plats pleins. C'est pas gratifiant ni pour eux, ni pour nous, ni pour la planète. Donc, au contraire, c'est plutôt intéressant de se dire qu'il y a des solutions qui sont juste liés au fait de prendre en main. Donc ils sont très positifs.
C'est très ouvert, quoi.
C'est très ouvert.
D'accord.
Oui, oui.
Merci beaucoup. Puis ça donne envie, en plus de ça, ça y est, de réutiliser ses mains pour manger, parce que c'est vrai que l'éducation nous a obligé à prendre les fourchettes. Hein. Donc,
c'est purement culturel. Hein. Et puis, on revient aussi, il y a une boucle qui est faite avec l'enfance aussi. Donc, c'est très rigolo. Et se rappeler aussi des souvenirs d'enfance au moment du repas, c'est ce qui donne de l'appétit. Ce souvenir, on a souvent des souvenirs cognitifs quand on mange, quand on déguste le goût de certains fruits, quand on a une fraise merveilleuse, par exemple. On a d'un coup ce goût de l'enfance qui ressort. C'est exactement ce qui se passe avec le manger-main.
C'est notre Madeleine de Proust.
Exactement, c'est une très belle expression, très bien choisie.
Voilà, vous avez fait le tour des stands?
Oui, oui, bien sûr.
Et quelle impression avez-vous ressenti?
Ben, c'est toujours intéressant parce qu'il y a des choses auxquelles on ne connaît pas et que c'est toujours un éveil. Voilà pourquoi je suis venue cet après-midi, voilà, me renseigner et puis voir du monde, n'est-ce pas ? Voilà, c'est l'occasion.
Une association nommée Mes parents et moi qui permet d'accompagner les seniors dans leur vie quotidienne et les éloigner de l'isolement social. Donc on propose tout ce qui est livraison de courses, conciergerie, assistance administrative et informatique. On propose aussi les activités collectives tous les mercredis qui permettent de partager du lien social avec les personnes. On a des ateliers qui peuvent aller de l'informatique aux jeux de société et aussi à la cuisine. En décembre, on organise une activité qui va permettre de créer son propre vernis. Donc ça permet de varier un petit peu les activités et partager du lien social entre les personnes.
D'accord. Mais on vous contacte comment ? Où êtes-vous basé ?
Alors on est basé à rue Charles Mouchel à Elbeuf. Et on peut nous contacter par mail sur notre site internet aussi, www.mesparentsetmoi.com, et aussi sur notre téléphone.
D'accord. Et il y a un coût ou vous êtes financé par d'autres institutions ?
On est financé donc par Malakoff Humanis, par la CARSAT, par le département de l'Eure, aussi le département des Yvelines, parce qu'on collabore avec eux, et avec les caisses de retraite aussi.
Voilà, nous sommes toujours sur le salon des seniors à l'hôtel du département et nous avons devant nous Monsieur Louis Baudin qui est l'animateur de ce salon aujourd'hui et qui accepte qu'on l'interviewe et je l'en remercie beaucoup. Qu'est-ce qui vous a fait venir chez nous à Évreux ?
Voilà, il y a plein de raisons. D'abord, moi, quand je peux quitter Paris, je suis très heureux parce que je ne suis pas du tout un citadin, mais bien un provincial. Ensuite, vous savez, quand on travaille dans des studios, que ce soit radio ou télévision, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un micro ou on voit l'œilleton d'une caméra, mais on ne voit pas les gens. Et puis, quand on a cette prétention de parler au plus grand nombre, la moindre des choses, c'est quand même de les rencontrer, d'échanger, de parler. Donc là, c'était une belle occasion de le faire. Et puis enfin, je trouve que ce salon senior, c'est quelque chose qui est totalement rafraîchissant. Ça peut paraître paradoxal, mais quand on vient voir un salon pareil, on voit un nombre d'initiatives, d'envies, de partages, toutes générations confondues, tout système confondu, associations, villes, départements, venir comme ça participer à cette évolution de la société. Et moi, je vais repartir de là avec le sourire, avec la banane, parce que c'est quand même ça qui est porteur d'espoir, porteur de partage. Et souvent, malheureusement, dans les médias, justement, on est sur le fait divers, on est sur le pathos, on est sur l'accident, mais on oublie peut-être qu'il y a aussi cet aspect-là de la vie qui, lui, est extraordinaire. Là, la solidarité qui s'exprime sur ce salon, elle est quand même incroyable. Voilà, donc ça me rend beaucoup plus optimiste et heureux.
En plus de ça, c'est la vie quotidienne ici. Hein, vous n'êtes vraiment pas au fin fond de la France quand même, mais Évreux, c'est une petite ville très moyenne, 50 000 habitants, donc vraiment la vie normale, quoi, classique. Vous connaissiez un peu Évreux ?
Alors moi je connaissais un peu parce que j'adore la France, donc partout où je vais je suis heureux. Je trouve que voilà, quand on peut se rendre... En plus, quand vous êtes géographe ou un peu météorologue, vous savez que la France, c'est un pays extraordinaire avec plein d'influences climatiques, océaniques, continentales, climat de montagne. Voilà, vous avez tout ça qui se croise, qui nous donne cette diversité de paysages. C'est pas un hasard si on est le pays le plus visité au monde. On a cette richesse gastronomique, ce patrimoine, cette histoire. Donc tout ça crée ce lien. Donc quand vous traversez la France, que vous traversiez l'Eure, il se passe des choses incroyables. En quelques kilomètres, vous changez de paysage, vous changez de forêt, vous passez au bord d'une rivière, vous passez avec des cultures différentes, vous rencontrez des gens différents, avec une histoire, et moi je trouve ça enrichissant et extraordinaire, et c'est le cas à Évreux, c'est le cas dans l'Eure, dont certains disent c'est un département qui est peut-être un portrait, parce qu'il est à la fois trop près de Paris, puis pas assez loin, comme d'autres départements normands, mais moi je crois que malgré tout, l'avenir appartient à ces territoires. Des territoires qui vont garder une forme d'authenticité, de nature et d'espace. L'espace va être la richesse de demain. Et un département comme l'Eure donc sera riche demain.
Il faut venir passer sa retraite dans l'Eure.
Bah pourquoi pas, parce qu'effectivement c'est un département qui est en même temps pas très loin de grandes institutions culturellement, si on veut aller sur la région parisienne, qui est pas très loin de la mer non plus, hein. La Manche est pas loin, et puis on peut avoir de l'espace, on peut aller faire des marches incroyables, et puis on le sait qu'on le fera dans une forme de discrétion et de richesse par rapport à cette harmonie et cet environnement qui est assez extraordinaire. Ouais, donc c'est une, ouais.
Oui, puis on est équidistant entre Paris, Deauville et Caen, qui n'est pas très loin non plus, et n'est vraiment en plus de ça, la Normandie est absolument superbe, donc c'est une région magnifique. Moi je suis normande, donc salon donc accès au droit.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que peu de gens connaissent un peu leurs droits en termes de vieillesse, on va appeler ça comme ça,
oui,
ou de senior
en termes de perte d'autonomie plus particulièrement. Ici, là, vous êtes au stand du département de l'Eure. Et donc, nous faisons des aides aux personnes âgées en perte d'autonomie ou en entrée en établissement. Ou éventuellement, si elles ne veulent plus être seules et entrer en famille d'accueil. Il y a plusieurs possibilités.
D'accord. Donc, il faut s'adresser à vous pour toute question concernant la situation d'une personne âgée.
Oui, 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 oui. Une personne âgée de plus de 60 ans en perte d'autonomie.
Ah, en perte d'autonomie.
Oui.
Qu'est-ce que vous appelez la perte d'autonomie, vous ?
Eh bien, par exemple, il peut y avoir des portages de repas à domicile de mise en place par le biais de l'APA à domicile, justement. Et donc, il faut faire la demande auprès du conseil départemental.
D'accord.
Ça, c'est un exemple. Hein.
Oui, oui, oui.
La téléalarme. Qui peut être mise en place aussi. Il arrive souvent que la perte d'autonomie se représente par des chutes. Il y a des pertes d'équilibre. Et donc, si vous avez la téléalarme de mise en place, eh bien, il y a un relais qui se fait via les pompiers ou une entreprise de téléalarme, et ça vient en aide à la personne.
D'accord. Et cette téléalarme, elle est, c'est la personne elle-même qui paye. Enfin, je veux dire qui.
Il y a des participations selon les ressources du bénéficiaire. Il y a des participations du département.
Ah, ça c'est important. Oui, d'accord.
C'est une aide. Voilà. Oui. L'appart à domicile, c'est une aide.
Qu'est-ce que vous êtes venu chercher et est-ce que vous avez trouvé d'abord ce que vous cherchiez et quel est le sentiment général ?
Eh bien, je suis venue chercher des informations, surtout sur des techniques naturelles de massage, d'automassage, etc. Des informations sur les aidants. Et voilà, de contexte général, très sympathique, agréable, ouvert à tous. Si vous voulez y participer, venez, 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 parce que franchement, c'est un très bon moment à passer. En plus, on a eu droit à un petit café super bon, un petit croissant, et voilà.
Alors, je vous ai vu, il me semble, à un stand de bien-être. Vous avez découvert des choses, hein ?
Oui, justement, sur l'automassage, la réflexologie, et un accueil très chaleureux, et une bonne compréhension, et je vais vite à la maison pour refaire la même chose.
Ah oui, vous allez donc mettre en pratique, c'est ça ?
C'est ça, je vais mettre en pratique, absolument, oui.
Et vous participez à beaucoup d'autres choses en tant que senior, des ateliers, des choses comme ça ?
Oui, alors par le CCAS, effectivement, je fais des cours de pilates, de la danse de salon et du théâtre. J'ai aussi participé au film sur l'éducation qui est projeté aujourd'hui au CCAS, au stand CCAS d'Evreux.
Merci. Et vous allez revenir cet après-midi ou vous avez fait le tour ?
Non, j'ai fait le tour. Je suis venue de bonne heure, donc j'ai pu faire le tour. Et voilà, je repars le sac plein de...
d'idées, plein de projets.
Plein de flyers et des idées à mettre en place une fois rentrée à la maison.
On va dire à l'année prochaine alors, pour trouver d'autres choses.
Absolument, à l'année prochaine. Merci.
Merci.
Bulle et reportage, principe actif.